franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Il va donc faire froid cette semaine, on vous le répète depuis quelques jours, et la France risque de manquer d'électricité pour chauffer tout le monde.
La semaine dernière, je suis sorti dehors, et là...
Oh putain, il fait froid !
Je suis rentré. J'ai mis mes grosses chaussettes de ski, un col entre moches mais que personne ne verra, et j'ai pas mis de bonnet, je suis sorti.
Oh putain, il fait froid !
J'ai mis un bonnet. J'ai expiré de l'air, j'avais l'impression de fumer des gauloises sans filtre, ça m'a fait marrer deux minutes et puis...
Putain, il fait froid !
Voilà, Météo France qui annonce 3 jours sans dégel à partir de ce soir et pour une grande partie du territoire. Une vague de froid qui va entraîner une consommation record d'électricité et une situation redoutée par le gestionnaire du réseau d'électricité français qui n'exclut pas de devoir mobiliser des moyens exceptionnels. Pour en parler, nous sommes en studio avec Bernard Laponge. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur de l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, membre de l'association Global Chance, expert de la transition énergétique. Et puis dans ce studio, bien sûr, comme tous les lundis, notre partenaire du magazine reporter.net, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
On commence d'ailleurs avec vous par un petit bulletin météo de l'électricité. Hervé, à quoi faut-il s'attendre dans les jours qui viennent ?
Peut-être à faire provision de bougies, puisqu'il n'est pas impossible que le nucléaire nous fasse revenir à la bougie. En effet, on attend une vague de froid. Météo France va le confirmer cet après-midi. Peut-être moins 6 à moins 18 degrés Celsius par rapport à la normale saisonnière. Or, quelles conséquences cela a-t-il sur le parc ? Eh bien, 1 degré de température en moins entraîne une hausse instantanée de la consommation électrique fournie par 2400 MW, autrement dit par 2 réacteurs. Pour faire simple, plus il fait froid, plus on a besoin de réacteurs nucléaires. Et c'est donc près de 10 réacteurs qui vont être nécessaires pour faire face au général hiver cette semaine. Mmh. Or, le parc nucléaire français est à la limite de ses capacités. On attend une pointe de consommation fournie par 101 MW jeudi. Ça serait presque autant que le record du 8 janvier 2012. Et c'est une situation qui est aussi inquiétante parce que selon l'autorité de sûreté nucléaire, plusieurs réacteurs nucléaires présentent un défaut structurel, une concentration excessive de carbone dans plusieurs composants, ce qui les fragilise.
Que de bonnes nouvelles en prévision, Axel.
Alors Bernard Laponge, on l'a un peu compris avec Hervé, mais comment ça se fait que quelques degrés de moins, puisque là moins 6 ou moins 10, c'est pas grand-chose, soit si problématique pour le réseau électrique français ?
Mais le réseau électrique français, ou le système électrique français, présente deux défauts, d'une certaine façon, contradictoires. Du côté de la consommation, il y a une spécificité française qui est le chauffage électrique. Mmh. Alors le chauffage électrique, je crois que c'est le tiers des ménages qui sont équipés d'un chauffage électrique. Et comme par hasard, quand il fait froid, les gens se chauffent.
C'est étonnant.
Ce qui n'est pas exceptionnel, c'est qu'il fasse froid. Ce qui est anormal, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoive qu'il fait froid et qu'on ait des problèmes avec le système électrique. Pourquoi ? Parce que l'électricité ne se stocke pas. Et donc, il faut immédiatement fournir la puissance électrique nécessaire pour les radiateurs électriques. Alors, c'est catastrophique, parce que, comme l'a dit Hervé, vous avez 1 degré de différence, ça vous fait la puissance, une puissance de l'équivalence de 2 réacteurs. Et donc, c'est catastrophique, parce que vous passez d'une puissance moyenne sur l'année de 50 gigawatts, donc 50 000 mégawatts, l'équivalent de la production de 52 réacteurs, à 100 ou à 102. C'est-à-dire que cette espèce de pointe double tout d'un coup la nécessité de puissance.
Oui.
Donc c'est complètement idiot parce que il faut se chauffer avec une énergie qui se stocke. C'est-à-dire le bois, le charbon, le gaz, le chauffage urbain. C'est-à-dire ben, s'il fait plus froid, vous tirez un peu plus sur vos réserves. Là, vous ne pouvez pas, vous devez fournir immédiatement. Et la pointe française, c'est-à-dire l'augmentation due à ce phénomène, est le double de la pointe européenne. Et si on fait une comparaison, puisqu'on se compare toujours à l'Allemagne, 81 millions d'habitants, la France métropolitaine, 64 millions d'habitants. Donc, beaucoup plus de gens. La puissance de pointe de l'Allemagne en 2014, 74 gigawatts. 74 000 mégawatts. Et en France, c'est 80 ou 90. Donc la pointe française est bien supérieure à la pointe allemande.
Pour une population moins importante.
Pour une population qui est nettement plus faible. Tout ça à cause du chauffage électrique.
Ouais. Il nous faudrait donc plus de centrales alors, c'est ça ?
Alors, deuxièmement...
Provocateur.
Ça, c'est du côté de la consommation. Donc cette spécificité, qui date du début des années 70, qu'on a encouragé puisqu'on avait beaucoup d'électricité fournie par les centrales nucléaires, donc on a encouragé le chauffage électrique, et on se trouve dans cette situation où chaque fois l'hiver, on s'aperçoit qu'il fait froid. Du côté de la production d'électricité, on pourrait dire, ben c'est très bien, on va avoir un système de production qui va répondre à cette demande, capable de faire la pointe. Or, le système français est à 75% nucléaire. Mmh. Le nucléaire n'est pas fait du tout pour la pointe, il est fait pour la base, c'est-à-dire fonctionner en permanence. Et donc, ce qui manque, c'est pas ce qu'a dit Hervé, il manque pas deux ou trois réacteurs, il manque une production d'électricité presque instantanée, c'est-à-dire valable pendant un mois ou deux, susceptible de répondre à cette pointe. On les a pas. Et donc, tout d'un coup, panique à bord, il va falloir importer de l'électricité, ce qui est limité d'abord par la puissance des lignes d'interconnexion et la capacité des pays voisins de nous vendre. On va payer ça extrêmement cher, parce que vous voyez bien qu'au sommet de la pointe, ça sera difficile. Et donc, on a une situation dégradée du point de vue du système électrique.
Eric Kempf. C'est une situation dans laquelle il y avait presque une dizaine de réacteurs qui étaient arrêtés en novembre et début décembre, parce que l'autorité de sûreté nucléaire avait constaté des défauts dans la composition d'un certain nombre de composants. Les jugeant importants, graves pour la sécurité, ils ont réautorisé le fonctionnement de ces réacteurs. Est-ce qu'on peut avoir aussi une crainte sur la sûreté nucléaire dans les jours ou les semaines qui viennent ?
Oui, alors cette crise, paradoxe, c'est anormal, parce que si vous voulez, à partir du moment où on a découvert sur un certain nombre de réacteurs, 18 réacteurs sur 58, c'est quand même presque pratiquement le tiers du parc français, des anomalies dans la teneur en carbone des aciers. Et par conséquent, on a des réacteurs dont la sûreté nucléaire est dégradée. Mmh. Bon, alors, on arrête un certain nombre de réacteurs. Il y en a un, de toute façon, qu'on a arrêté parce que c'était une catastrophe totale. Donc là, il n'est pas question de redémarrer. Et un certain nombre d'autres sont autorisés à redémarrer, et en particulier sous la pression de cette histoire de pointe de froid, ce qui est tout à fait anormal.
Oui.
Vous avez d'un côté la sûreté, ce qui est un problème très grave, et de l'autre côté le fait que peut-être il y aura des problèmes avec les fournisseurs.
C'est-à-dire qu'on va pousser les réacteurs au pire des moments, finalement.
Hein. Alors, au pire des moments, et il y en a 5 à 7 au moins sur les 18 qui devraient être arrêtés actuellement, et qui ne le sont pas parce que justement, on dit, ah ben voilà, il faut passer l'hiver, ce qui est très grave.
Axel, dernière question, oui, très vite.
Quels sont les leviers qui vont être activés là cette semaine pour vraiment pallier à la demande et que tous les Français soient au chaud chez eux, même s'ils se chauffent à l'électrique?
Bon, il y a les leviers du côté du réseau de transport, ce qu'a dit Hervé, c'est-à-dire la possibilité d'importer de l'électricité, la possibilité éventuellement de faire des délestages auprès de très gros consommateurs industriels, c'est-à-dire les prévenir en leur disant, bah, écoutez, demain, il faut que vous réduisiez votre consommation, vous utilisez vos diesels, tout ça coûte très cher, mais c'est faisable. Ce qui est plus grave, c'est cette histoire de sûreté nucléaire, c'est-à-dire que on sacrifie quand même. C'est très difficile d'estimer le risque, mais il y a au moins 5 réacteurs qui ont des aciers fabriqués au Japon, dont on sait très bien que la teneur en carbone est beaucoup trop forte. Et ils devaient être arrêtés. Et ils ne sont pas arrêtés en se disant, bon, quelques jours de plus, une semaine ou deux de plus, c'est pas très grave. En fait, on a une situation dégradée qui est prouvée par le fait que, en autorisant ces redémarrages, EDF dit qu'il faut des mesures compensatoires.
Quels sont les réacteurs que vous citez exactement?
Les 5 de mémoire, je sais pas, je connais les réacteurs arrêtés aujourd'hui.
Ouais.
Les 5, c'est ceux qui sont c'est fabriqués au Japon. Et donc on court un certain risque, je peux pas du tout dire que c'est absolument certain qu'il y aura un accident.
Ah ben on l'espère. Ouais.
Mais c'est totalement anormal du fait d'une erreur initiale sur le système électrique et sur la consommation d'électricité. Donc il faut faire de façon générale des économies d'électricité et pas seulement les 3 jours de froid, réduire la consommation et réduire la pointe.
Bon,
de façon à pouvoir passer.
On va retenir notre souffle alors.
Les hivers prochains.
Pour les jours qui viennent. Merci beaucoup Bernard Laponche. Axel, on peut signaler que pour ceux qui souhaitent participer à l'effort d'économie d'énergie, il y a une application téléphonique intéressante.
Oui, on peut télécharger sur son téléphone l'application Eco2Mix qui vous alerte en cas de grosse demande dans votre région et qui vous guide pour réduire votre consommation rapidement. On a mis des liens sur les réseaux sociaux.
Et on retrouve bien sûr cette information sur le site reporter.net. Merci beaucoup à tous. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la zone du cerveau responsable de la prédation identifiée chez la souris. C'est ce que révèle une étude impressionnante menée par des neurobiologistes de Yale. Les chercheurs ont infecté des souris avec un virus rendant leur amygdale dans le cerveau sensible à la lumière. Ils l'ont ensuite stimulé avec un laser et immédiatement la souris s'est dressée sur ses pattes arrière et a contracté les muscles de sa mâchoire en quête de proie. Grâce à des études comportementales, ils ont confirmé que cette attitude n'était causée ni par la faim ni par par l'agressivité. On sait donc désormais que l'amygdale, en plus d'être responsable de l'instinct de peur, contrôle également celui de la chasse. N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites du sport. Écrire des SMS ou téléphoner pendant une séance de course à pied diminue respectivement de 45 à 19% votre stabilité posturale. Selon deux études américaines, l'usage du téléphone divise la tension, modifie l'équilibre, exposant davantage les sportifs à des blessures musculaires ou squelettiques. La seule utilisation du portable qui n'impacte pas votre posture, c'est l'écoute de la musique. Et puis le génome du café arabica pour la première fois entièrement séquencé, 1,19 milliard de paires de bases, 78 830 gènes. Voici donc le génome Coffea arabica, l'espèce de café la plus consommée au monde. Ce séquençage, commandé par la firme alimentaire Suntory Group, a été intégralement rendu public hier à San Diego. Opération qui a pour but d'aider à l'élaboration de nouvelles variétés de café plus résistantes aux maladies et aux changements climatiques. En effet, les caféiers ne poussent que dans des conditions très spécifiques. Or, les changements climatiques menacent chaque année davantage les zones actuelles de culture du café.